Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de multiculturalisme, de la théorie du genre, du mois des agressions sexuelles, de la semaine de la santé mentale, de dénatalité et en rafale des bonnes nouvelles du jour. Débutons avec cet article impliquant Mathieu Bock-Côté qui s'intitule « L'homme sans civilisation est nu et condamné au désespoir ». Et oui, Mathieu Bock-Côté a été interviewé et cette entrevue a été publiée sur la plateforme du Figaro. Voici ce que nous dit essentiellement Mathieu Bock-Côté. Il nous dit que dans l'histoire du Canada, nous étions un peuple fondateur sur deux, en parlant justement du Québec ou du Bas-Canada. Avec le multiculturalisme d'État, on nous a transformés en nuances identitaires parmi d'autres dans l'ensemble canadien. Et ça, c'est le point majeur de Mathieu Bock-Côté, qui est non seulement un nationaliste, mais un indépendantiste. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la réflexion de Mathieu Bock-Côté, même si sur certains éléments, je ne suis pas du même avis que lui. Et c'est surtout dans les moyens que je ne suis pas du même avis. Mais essentiellement, on partage beaucoup d'éléments communs, à quelques nuances près, évidemment. Mais lui, il va remettre en question, il a même écrit un livre là-dessus, le multiculturalisme, justement, parce que le multiculturalisme, moi je le résume ainsi, c'est l'apport de chaque communauté pour le bien commun. Donc, c'est pourquoi on parle du vivre ensemble. Multi, ça veut dire plusieurs. Donc, plusieurs cultures cohabitent et collaborent ensemble pour former une nouvelle culture. Mais lui, Mathieu Bock-Côté, va définir le multiculturalisme de cette façon. Il va dire que c'est une idéologie fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut en déduire, c'est que pour lui, les communautés culturelles doivent apprendre à s'intégrer dans la culture, en l'occurrence la culture québécoise ou la culture canadienne. Et ce n'est pas, disons, à la culture canadienne de s'accommoder ou de s'acclimater à l'adhésion de ces communautés-là. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous êtes issu d'une communauté culturelle ou d'une communauté ethnique. Vous habitez, par exemple, une ville en Afrique. Vous arrivez ici. Vous vous adaptez. Vous vous faites une place ici. Vous devenez un Canadien à part entière. Vous retournez dans votre pays et vous réalisez que l'architecture change, l'habillement change. Vous voyez de plus en plus de commerces américains prendre place dans la ville. Et le constat, cette ville s'américanise. Alors vous dites, oh un instant, c'est pas mon pays d'origine, ça ne se ressemble plus. Alors c'est normal qu'ici au Québec et au Canada, on se pose des questions. On se dit, attendez un instant, où est-ce qu'on veut s'en aller? Parce que, et on va en parler tout à l'heure, toute la question de la dénatalité, de la descente démographique, eh bien, ça fait en sorte qu'on accepte de plus en plus de gens qui sont issus de l'immigration. Et pour moi, c'est une bonne chose, parce que les communautés ethniques ont quelque chose à nous apporter. C'est pour ça que moi, j'ai une vision un peu différente, en ce sens que oui, moi, je ne suis pas à l'aise avec le multiculturalisme. Pourquoi? Parce que justement, ça dilue nos repères judéo-chrétiens. Ça dilue le lien qu'on a avec nos ancêtres qui sont venus défricher le Bas-Canada, la Nouvelle-France, qui sont venus bâtir un pays pour pouvoir vivre une liberté, une liberté d'expression, une liberté de conscience et une liberté de religion. Et on l'a vu dans cette série, où est-ce que les Huguenots sont venus pour justement vivre librement leur foi en Amérique du Nord. Évidemment, à cette époque-là, ça ne s'appelait pas l'Amérique du Nord, mais pour se situer géographiquement. Moi, ce que je prône, mesdames et messieurs, c'est un patriotisme communautarien. Patriotisme, ça veut dire qu'on doit être en lien avec notre patrimoine, notre histoire, les fondateurs de cette nation. En l'occurrence, la Nouvelle-France qui est devenue le Québec. Ces gens-là sont venus ici, avaient un désir d'évangéliser, d'apporter une bonne nouvelle, et ils ont planté des croix. Il y a eu des communautés religieuses, des communautés paroissiales qui se sont établies. Et ça a eu un impact sur l'éducation, sur la santé, sur la culture. Évidemment, plusieurs reprochent à l'Église catholique d'avoir pris un peu trop de place et d'avoir embrigadé ou emprisonné les paroissiens dans l'idéologie ou dans la philosophie du temps. Ça, mesdames et messieurs, il faut en revenir. Sans se mettre la tête dans le sable, on peut regarder, observer et conserver ce qui est bon de cette histoire-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu des erreurs qu'on doit rejeter notre patrimoine. Alors, comment on conjugue ça avec l'apport des communautés ethniques, des communautés culturelles? Parce que c'est important de les intégrer et qu'ils se sentent chez eux. Et c'est pour ça que je prends non seulement un patriotisme, mais un patriotisme communautarien. Communautarien, ça veut dire que chaque communauté a le droit et le loisir de se développer au sein même de notre société. Et chacun à part égale. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est quoi la différence avec le multiculturalisme? » Un instant. Si on joint le patriotisme à l'approche communautarienne, ça veut dire que ce qui est issu de notre patrimoine a préséance. Ce qui veut dire que si on opte pour un patriotisme communautarien, on a le meilleur des deux mondes. D'une part, on met en valeur que ici, on fête Noël, on fête Pâques, on fête l'Action de grâce, parce que ça fait partie de notre patrimoine, de notre historicité, de nos liens, de notre source, ou de nos sources. Mais maintenant, ça n'empêche pas une communauté ou un groupe ethnique de se développer, d'avoir ses écoles, d'avoir ses célébrations, mais elles n'auront jamais préséance sur le lien patriotique qui est en référence, justement, avec la croix, avec les célébrations. Donc, on ne pourra jamais empêcher ou on ne pourra jamais enlever la croix sur le Mont-Royal. Pourquoi? Elle fait partie de notre patrimoine. On n'enlèvera pas le crucifix, par exemple, à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Si on veut fêter Noël, puis par exemple, un hôtel de ville veut mettre une crèche sur le perron, ça fait partie de notre patrimoine. Et donc, à ce moment-là, d'autres communautés ne peuvent pas revendiquer l'identité religieuse parce que ce qui fait partie de notre culture, ce sont ces repères judéo-chrétiens. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les fêtes qui sont célébrées par les autres communautés doivent être bannies? C'est pas ça que je dis. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une égalité pour tous, mais il y a une préséance sur notre patrimoine. Donc, le Ramadan ne sera jamais une fête nationale, mais ça va être une fête qui peut être pratiquée parce que ça fait partie de la liberté religieuse. Mais il n'y aura pas de congé férié pour le Ramadan. C'est là la nuance. C'est que chaque célébration va pouvoir se vivre Oui, avec des accommodements raisonnables, et le mot raisonnable doit être maintenu. Ça ne veut pas dire des accommodements à bord ouvert. Ça doit être raisonnable, ça doit être gérable. Et donc, si des gens veulent pratiquer le ramadan, eh bien, par liberté de religion, parce qu'on opte pour une dimension communautarienne, ça doit être accepté dans notre société. Ce qui a préséance, mesdames et messieurs, c'est ce qui est en lien avec notre patrimoine. Et moi, je dis que c'est comme ça qu'on va unir le Québec dans une vision commune. Ce n'est pas être un contre l'autre. Ce n'est pas de dire qu'une façon de voir est meilleure que l'autre. Non, c'est de dire que c'est libre à chacun parce que la foi, les croyances, doivent être liées avec la conscience individuelle et les libertés individuelles. Alors, si comme individu, on est de foi athéiste, on pratique l'athéisme, eh bien, à ce moment-là, on doit avoir la même liberté que quelqu'un qui pratique le bouddhisme, qui pratique le judaïsme, le christianisme. Ce qui va faire la différence dans nos célébrations nationales, c'est le lien avec notre patrimoine. Donc, c'est pour ça que moi, je prône un patrimoine communautarien. Et c'est intéressant cet article qui est, ou cette entrevue qui est publiée sur le Figaro, parce que Mathieu Bock-Côté nous parle justement de cet enracinement. Et écoutez bien ce qu'il dit. On peut certainement y voir une autre manifestation de l'héritage des radicales 60s et de l'idéologie diversitaire qui domine généralement les départements des sciences sociales et au nom de laquelle on mène la bien mal nommée lutte contre les discriminations, parce qu'à force de présenter toute différence à la manière d'une discrimination, on condamne toutes les institutions à la déconstruction. Et ça va être plus clair par la suite. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Il faudrait pourtant se rappeler, dans la mesure du possible, que lorsqu'on sépare la démocratie libérale de ses fondements historiques et civilisationnels, elle s'effrite, elle se décompose. L'homme sans histoire, sans culture, sans patrie, sans famille et sans civilisation n'est pas libre. Il est nu et condamné au désespoir. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Il est nu et condamné au désespoir. Et en ce qui a trait à la théorie des genres, là, je presse un peu la cadence parce que je vois que le temps file. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment brillant ce que Mathieu Bock-Côté va dire. Et il dit qu'il est mal vu de s'opposer à la théorie des genres. Il faut pourtant dire qu'elle est portée par une tentation nihiliste radicale, donc ça veut dire qui prône le néant, qui entend tout nier, tout déconstruire au nom d'une liberté de pensée comme pure indétermination. La théorie du genre, selon Mathieu Bock-Côté, c'est le fantasme de l'auto-engendrement. La théorie du genre veut éradiquer le monde historique et reprendre l'histoire à zéro, en quelque sorte en abolissant la possibilité même de permanence anthropologique. C'est incroyable. La théorie du genre, c'est une auto-engendrement. Et moi, j'irais plus loin. J'irais, c'est une auto-destruction. J'aimerais vous inviter à lire La Presse, un article spécialement intitulé « Le pape réclame sévérité contre les abus sexuels sur les mineurs et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. » Et lui, pour lui, c'est une offense condamnable et on doit mettre ça en valeur parce que le pape se lève et soit déterminé comme ça, eh bien, moi, je lui lève mon chapeau, je dis « Allez-y, monsieur le pape, il faut aller dans cette direction-là. » Il y a d'autres personnes qui se lèvent, il n'y a pas seulement le pape. Il y a une jeune femme, Alexandra Dumont, qui a mis sur pied un organisme qui s'appelle 123 Action, qui elle-même a été victime d'agressions sexuelles et qui veut rejoindre les jeunes dans les écoles. Je vous invite à lire cet article « Agressions sexuelles » au pluriel, « Aider les enfants à dénoncer, c'est dans le devoir ». Et c'est vraiment touchant de voir qu'elle se lève pour venir en aide aux autres qui ont été victimes comme elle. Il y a une campagne annuelle de promotion de la santé mentale qui est lancée également, on voit ça dans la presse. Et ça, c'est important parce que vous savez que la santé mentale, et souvent, pas dans tous les cas, mais est souvent un précurseur de suicide. Et il faut se préoccuper de la santé mentale parce qu'on en voit de plus en plus de gens qui sont atteints de cette maladie-là. Et on propose 7 astuces qui aident à se sentir bien dans sa tête. Et je vous invite à lire cet article également. Fécondité, eh bien, pourquoi le Québec a besoin de nous? Et j'en reparlerai demain parce que je vois que le temps passe. Et donc, je vais aller tout de suite aux bonnes nouvelles du jour. Le docteur Julien a remis des vélos à des enfants défavorisés. Kraft Heinz s'engage à verser plus de 300 000 $ pour aménager de meilleurs espaces de jeu dans les communautés au Canada. Et Open Table divulgue la liste des 75 meilleurs restaurants au Canada où aller bruncher, juste à temps, justement, pour la fête des mères. Sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, eh bien, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce Tour d'horizon. Le Tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, @ericlantier.net. Le Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!